monde de Tintin et Milou. Une chronique animée par Jean-Yves Delors et Bruno Hiret.
Bonjour Bruno.
Ah, je suis un peu triste, bonjour Jean-Yves.
Eh bien oui, c'est notre dernière émission.
Oui, oh, je suis sûr que vous aurez d'autres bonnes idées.
Alors aujourd'hui, on va parler de Tintin, personnage éternel. Alors, avant d'être un personnage éternel, c'est d'abord le témoin d'une époque. L'époque du XXe siècle. Les aventures reflètent les événements du communisme soviétique, Tintin au pays des soviets, à la guérilla sud-américaine, Tintin à l'Ipcaros, en passant par la colonisation, Tintin au Congo, les prémices de la Seconde Guerre mondiale, le sceptre de Tokar, les troubles en Palestine, au pays de l'heure noire, ou l'avènement des masses médias audiovisuels, les bijoux d'un Castafiore en 1960. Hergé manifeste une remarquable documentation dans Objectif Lune et On a marché sur la Lune, en anticipant d'une vingtaine d'années, avec notamment On a marché sur la Lune, Hergé se projette en visionnaire. Il reprend aussi une vieille aspiration de l'humanité en train de devenir crédible. Il associe un désir populaire d'aller dans la Lune à une vulgarisation scientifique exceptionnelle. Et 20 ans plus tard, à l'heure du programme Apollo, Tintin sera déjà à la rencontre avec les extraterrestres dans Vol 714 pour Sydney.
Mais une époque qui dure.
Eh oui.
Né dans les années 30, les aventures de Tintin ont connu un développement spectaculaire auprès des jeunes, surtout dans les années 60. Une véritable folie. Les personnages sont devenus archi connus. Milou, le capitaine Haddock, les Dupont, Tournesol, la Castafiore. Certaines des phrases des albums sont devenues des phrases cultes. Je dirais même plus. 1 000 000 de 1 000 saveurs. Moi, faire un virage pour un stupide mirage. Plus tard, a joué le phénomène de génération. Passionnés par les albums, les parents ont raconté à leurs enfants, ou bien les enfants et petits-enfants trouvaient la collection chez leurs parents. Aujourd'hui, Tintin reste un produit phare pour la maison d'édition Castermal. On parle de 20% du chiffre d'affaires. Des très nombreuses études sont parues sur les personnages Tintin et Hergé. Il y a aussi tous les produits dérivés, des objets de papeterie aux porte-clés, en passant par les boîtes de biscuits, les serviettes, calendriers, etc. Il y a aussi un site tintin.com, où l'on peut trouver toutes les actualités sur Tintin, expositions, sorties d'ouvrages. Bref, la marque Tintin fait toujours rêver.
Alors, je vous signale des petits phénomènes aussi. D'abord, la forte cote des albums sur le marché de l'art. Certains se sont vendus très cher. Et il y a aussi le musée Tintin, inauguré en 2009, dont on a déjà parlé à Louvain-la-Neuve. Et puis, quand on arrive à la gare de Bruxelles-Midi, au sommet d'un immeuble de l'avenue Paul-Henri Spaak, trônent deux visages géants de Tintin et Milou. Et puis finalement, quand un événement international se produit, à qui pense-t-on pour illustrer le phénomène? Au personnage de Tintin. Je n'en veux pour preuve que la pandémie de Covid qui a donné lieu à de nombreux détournements d'images. Les partisans du refus de la vaccination ont aussi récupéré l'image de Tintin qui, dans le Lotus bleu, est menacé par un fou qui veut lui inoculer le poison qui rend fou. Éternelles images.
Ça vous a bien amusé, Jean-Yves. Je crois même que vous les avez envoyées. On pourrait dire que Tintin au XXe siècle est un peu comme Jules Verne au XIXe. Peut-on se passionner aujourd'hui pour 5 semaines en ballon ou le tour du monde en 80 jours? Je crois que oui. La documentation d'un Jules Verne inventant le sous-marin dans 20 000 lieues sous les mers se rapproche de la documentation d'Hergé dans Objectif Lune. Ça reste quand même prodigieux.
Et c'est le moment où jamais de dire « Tout est bien qui finit bien ».
Macrocéphale,
cannibale emplumé.